à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Julie Dragon, bonjour.
Bonjour Bruno.
Julie Dragon, merci d'être venue pour ce deuxième entretien. Nous avions expliqué la dernière fois un peu votre parcours d'ingénieur agronome qui a une expérience un peu dans l'agriculture, mais ensuite dans la banque, et puis qui, à l'âge de 37 ans, arrête tout ça et se dit « c'est pas mon chemin, c'est la création artistique, c'est la peinture ». Et donc, vous avez une carrière maintenant de peintre derrière vous. Vous nous avez expliqué tout ça, vos sujets, vos thèmes, vos expositions à venir, votre atelier qui est près de l'église d'Albade, 3 rue des Paradoux, où on peut vous rencontrer, vos thèmes de prédilection. Bref, on vous connaît un peu mieux. Je voudrais qu'on traite aujourd'hui d'une question qui est une question plus orientée vers notre foi chrétienne et vers notre religion, qui est la question du beau. Est-ce que les artistes, comme vous, les peintres en particulier, sont nécessairement à la recherche du beau ou pas ?
Alors, ça, c'est une question, elle est presque politique, cette question. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, il me semble que... peindre, ou c'est quand même marcher, chercher, avancer vers le beau, le bon et la vérité. En tout cas, en tant que chrétienne, j'ai l'impression que la peinture, c'est moi un petit peu mon chemin pour aller vers Dieu, entre autres. Et Dieu, quand je le verrai, si je le vois, il sera beau, il sera en vérité, il sera bon. Enfin, donc tous les artistes, s'ils sont un petit peu honnêtes avec eux-mêmes, s'ils cherchent à faire quelque chose de plus grand qu'eux, et il faut faire quelque chose de plus grand que soi, parce que l'homme est fini, hein, sinon c'est pas très drôle. Normalement, on a un certain rapport avec la transcendance.
La transcendance à travers le beau.
Voilà.
La recherche du beau. Ça me fait penser à une réflexion que j'avais avec un philosophe qui s'appelle Robert Heidegger, qui était venu sur ce plateau, qui était de dire, au fond, il y a une permanence du beau, parce que Dieu nous a donné le sens du beau et le sens du vrai, et c'est à nous à le chercher. Et, me disait-il, il n'y a qu'à regarder les créations artistiques depuis la préhistoire, depuis les grottes de Chauvet, 30 000 ans, en passant par Lascaux, 20 000 ans, en passant par toutes les créations artistiques depuis que l'homme existe et sait écrire. C'est le beau qui reste. Et ce beau est intemporel, n'est pas relatif, il est permanent. Vous partagez ce point de vue ?
Oui, le beau est intemporel. Alors, on ne s'en rend pas toujours compte sur le moment, en fait. Mais quand on regarde dans le temps, il reste que ce qui est beau. Ce qui n'était pas beau, on l'a détruit. Il n'a pas résisté. On ne sait pas ce qui n'était pas beau au XVIe siècle. On ne le voit pas, ce n'est pas resté. On ne sait pas ce qui n'était pas beau il y a très longtemps, parce que ça n'est pas resté. Donc oui, je pense que le beau reste, parce que l'homme dans son ensemble a quand même cette capacité à reconnaître le beau. Et d'ailleurs, quand on veut atteindre l'homme vraiment dans son cœur, c'est quand même ce qui se passe dans des pays un petit peu, ce que font les talibans, etc., ils vont casser le beau. Ils vont détruire l'art, ils vont détruire la culture. Quand on veut détruire l'homme vraiment, on détruit le beau.
On détruit sa culture.
Sa culture.
Mais est-ce que ça va à contresens quand même d'un certain nombre d'idées assez présentes, voire dominantes dans certaines sphères, qui est celle du relativisme, c'est-à-dire de dire mais non, tout est relatif, ce qui est beau aujourd'hui ne le sera pas demain, ce qui est beau pour vous ne l'est pas forcément pour moi, ce qui est vrai, et donc évidemment la phrase suivante, c'est ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain, ce qui est vrai pour vous n'est pas forcément vrai pour moi. Donc ce relativisme total, comment vous vous situez-vous par rapport à ça?
Alors, le relativisme total, il existe à partir du moment où la personne se met au centre de tout, où elle pense qu'elle est supérieure à tout. si les gens croient qu'il y a un Dieu qui est plus grand qu'eux, ou pas forcément Dieu d'ailleurs, ça peut être la nature. Si, à partir du moment où les gens pensent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux, ils vont vers ça et ils sont beaucoup moins relatifs.
Ouais. En fait. C'est la transcendance.
C'est la transcendance. Et en fait, les gens qui pensent effectivement que tout est relatif et que chacun dépend de soi, c'est des gens qui sont tournés vers eux-mêmes et qui pensent que le génie vient de l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est assez la mode de dire il sait rien, il connaît rien, il a fait quelque chose, c'est un génie. Mais en fait, non, on est le fruit d'une histoire, on est un petit maillon d'une histoire qui va ailleurs. Et si on ne l'accepte pas, je ne pense pas qu'on puisse faire des choses qui restent dans le temps.
Donc vous êtes à la recherche du beau, intemporel, ouais. et c'est un sacré défi quand on est face à sa toile, non ?
Alors, est-ce qu'on se le dit à chaque toile ? Peut-être pas, je pense que c'est plutôt une nourriture intérieure, un souffle intérieur que l'on a, que l'on cherche par ses lectures, par sa manière d'être, par sa manière de regarder le monde.
Est-ce qu'il vous arrive de vous dire, non, ça c'est pas beau, j'arrête ça, je fous ma toile ?
Quand c'est pas beau, je repeins par-dessus.
Ouais.
Je repars par-dessus, je me dis c'est pas beau, j'aime pas, je vais... Mais il faut avouer que quand on est peintre, il y a quand même des choses plus réussies que d'autres. On trouve pas toujours ce qu'on a fait excellent, même souvent. On trouve ça... Enfin, heureusement, on pense qu'on peut toujours mieux faire. En tout cas, c'est mon cas. Moi, j'ai jamais l'impression d'être au mieux de ce que je puisse faire. Si j'arrivais au mieux de ce que je pouvais faire, bah, j'en serais assez désolée parce que... Ça me paraîtrait terrible, ça me paraîtrait un vide immense devant moi. Alors heureusement, je ne suis pas du tout le cas, j'ai quand même vraiment l'impression que j'ai...
Mais alors, est-ce que vous êtes un peu comme Léonard de Vinci qui a traîné, j'allais dire, c'est peut-être pas le terme, mais qui a gardé la Joconde avec lui toute sa vie parce qu'il la reprenait toujours, il estimait toujours qu'il pouvait encore améliorer ce tableau et que finalement il l'a gardé. Vous avez des toiles comme ça que vous gardez en disant non, celle-là, je peux encore l'améliorer?
Ah, il y a des toiles que je garde 2-3 ans avant de les finir parce que je n'arrive pas à les finir. J'ai pas, je peux pas l'expliquer en fait. C'est-à-dire, j'ai pas cette inspiration, cette chose qui me dit, il faut que tu fasses ça avec ta main pour que ça soit bien. Et quelquefois, ça arrive. Et quelquefois aussi, on a des commandes, il faut bien qu'on les finisse. Donc, on se force un peu plus et on arrive aussi à des choses très bien. On peut pas toujours tout expliquer dans la. Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas toujours tout expliquer dans ma peinture. Tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce que je fais, je ne l'analyse pas toujours. Et je ne peux pas toujours l'expliquer. Je pense quand même qu'on est porté par ce qu'on recherche dans la vie. Donc, je sais pas, des lectures, des gens qu'on écoute. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Voilà.
Oui, c'est votre source d'inspiration. Voilà. N'est pas que...
Visuel
à un moment donné, un paysage ou une situation que vous vivez, mais c'est aussi à travers vos lectures, vos discussions avec vos amis, etc.
Voilà, exactement. Ouais. Et j'écoute énormément de podcasts sur la vie des gens, comment ils sont inspirés, des podcasts sur la littérature, beaucoup. Alors c'est assez marrant, la littérature m'inspire plus pour peindre que la vie des peintres. Mais j'ai remarqué que c'était le cas de beaucoup de peintres.
Ah oui.
Ouais.
C'est intéressant.
C'est amusant.
Et alors, il y a dans vos amis, je le sais, des gens qui se sont spécialisés, même si vous en faites un petit peu, vous ne faites pas que ça, mais des gens qui sont spécialisés dans la peinture dite religieuse, entre guillemets. Je pense en particulier à François Pelletier, que j'ai reçu ici aussi, et qui est un peintre qui habite à côté d'Agen, et qui est figuratif aussi. Parlez-nous un peu de François Pelletier, parce que je crois que vous le connaissez très
François
bien.
François Pelletier, c'est un personnage incroyable qui a vraiment dédié sa vie à sa peinture. Il dit qu'une peinture, c'est pas une œuvre, mais c'est une œuvre, c'est toutes ses peintures, en fait. Et il est très croyant. Et il veut vraiment permettre aux gens de mieux croire ou de connaître le Christ par ses peintures, parce que il a des messages à faire passer. Alors il recherche énormément. C'est quelqu'un qui en théologie cherche, se fait accompagner par beaucoup de prêtres, de théologiens, Et il a fait notamment, par exemple, l'Apocalypse, qui est à Saint-Émilion, 35 mètres de long,
oui,
4 mètres
dans
de haut.
Le cloître de Saint-Émilion, qui est une œuvre saisissante. Ça.
Voilà.
J'invite nos auditeurs, s'ils vont dans la région de Saint-Émilion, de Bordeaux, de faire le détour, d'aller voir le cloître de Saint-Émilion et de voir cette peinture incroyable sur l'Apocalypse, où il a travaillé effectivement avec un théologien, un dominicain, je crois.
Et j'ai plus le nom.
Qui validait son approche
avec plusieurs, même, hein,
de l'interprétation des écrits de Saint-Jean, parce que c'est quand même une œuvre qui n'est pas facile.
Oui, et c'était la deuxième Apocalypse qu'il faisait, je pense qu'il essaiera d'en faire une troisième, ouais, parce que effectivement, c'est
jamais. Il a aussi peint des chemins de croix extraordinaires.
Ouais. Abias.
Ouais.
Ouais.
Qui
magnifique.
Sont,
qui sont
magnifique,
ouais, des chemins de croix qui peuvent convertir, parce que ils sont simples, mais quand même précis. Ils transmettent une image de ce martyr du Christ et aussi de la beauté de ce martyr.
La beauté de ce martyr, alors, ce qui m'a saisi, moi, dans sa représentation du Christ en train de souffrir, donc son martyr, c'est une espèce de sérénité profonde qui se dégage de sa peinture, et presque on sent, on entend le pardon du Christ à travers le regard qu'il porte sur ses bourreaux. Il n'y a pas de regard de haine ou de regard de souffrance, il y a un regard de pardon. Moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant.
Oui, c'est aussi parce que c'est beau.
Ouais.
C'est aussi parce que c'est beau qu'on voit de la douceur, alors que ce n'est pas une peinture douce, hein, quand même.
Non.
La peinture de François Pelletier, c'est...
Bah, L'Apocalypse, c'est pas que doux.
Pour
et la passion
titiller.
Non plus, oui.
Mais l'ensemble est quand même doux et miséricordieux.
Miséricordieux. Et il a un élève aussi qui est assez connu dans les milieux religieux, c'est Augustin Frison-Roche.
Augustin Frison-Roche, ouais, qui est un grand élève de François Pelletier, qui peint énormément de choses, et notamment, lui, il a peint une Apocalypse à Saint-Malo, il a peint une croix à Chartres, sur l'autel, il a peint énormément de choses. Et lui, il est très, très en douceur, avec toute la technique que lui a appris François Pelletier. Il est très dans la douceur et est très intéressé aussi par la théologie et transmettre sa foi aussi par ses œuvres.
Et les œuvres de François Pelletier ou de Augustin Frison-Roche, où est-ce qu'on peut les voir?
Alors,
on tape sur Internet, on les trouve?
Oui, on trouve tout. Vous tapez l'un ou l'autre, Google Images, il y a tout ce que vous voulez.
Oui. Parce que c'est aussi, ce sont aussi des œuvres qu'on peut acheter. Hein,
on peut aller chez François Pelletier à Bias et il a des œuvres à vendre. Peut-être pas beaucoup parce qu'il travaille plus sur commande. Et chez Augustin, il fait des expositions dans des galeries à Paris, je crois.
Tout comme vous, les peintres vivent à travers leurs expositions. Ouais. Donc, Julie d'Aragon, merci pour tous ces éclairages sur votre art et sur la recherche du beau et sur le chemin vers Dieu que cette recherche vous amène à faire. Merci beaucoup.
Merci, Bruno.